Émission spéciale sur Radio Grenouille à l'occasion de la 12e édition du Festival de Marseille. C'est l'ouverture ce soir, une émission spéciale en partenariat avec le journal Marseille, l'Hebdo et le forum FNAC. Beaucoup de monde autour de ce plateau, au cercle des nageurs marseillais. Apolline Quintran, directrice du Festival de Marseille, Paul Letcha, président du cercle des nageurs, Roger Cadieu, apnéiste, ancien champion du monde de chasse sous-marine, ami de Jacques Mayol et professeur d'aïkido, Éric Dimeco, délégué à l'animation de la jeunesse dans les quartiers de la ville de Marseille, Pierre Rigal et Michel Kéliménis, chorégraphe et ancien sportif, Laurence Mouchnino et Sylvie Bateau, qui sont tous les deux professeurs d'éducation physique et sportive. L'une est responsable du département de danse à la faculté des sciences du sport de Lumini. Et l'autre également, si vous enseignez la danse, je crois que ce n'est pas le même titre, mais vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Il y a également Frédéric Audon, qui est capitaine de l'équipe de waterpolo élite du Cercle des nageurs marseillais, ainsi que Daniel Larieux, chorégraphe, ancien directeur du Centre chorégraphique national de Tours. Et les danseurs de waterproof, eux, ils ne sont pas là, ils sont en train de se concentrer pour la représentation tout à l'heure qui démarrera à 10h. Évidemment, Gilles Roff de Marseille Hebdo qui va co-animer cette discussion avec moi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gilles.
Bonsoir. Alors, une discussion autour de la danse et du sport, parce qu'on profite bien sûr de cette ouverture exceptionnelle du Festival de Marseille dans la piscine du Cercle des nageurs de Marseille, qui est un haut lieu du sport de haut niveau. Hein. On connaît le côté loisir, mais il y a aussi, et avant tout, on va dire, le sport de haut niveau ici. Et on va profiter donc de cette soirée pour approfondir les rapports entre sport et danse, sport et culture. Alors, on a parfois l'impression que ces deux mondes se dédaignent cordialement, on va dire. Une impression qui est parfois justifiée. Et avec tous les gens qui sont réunis là autour de la table, on va voir que ces rapports ne sont pas si caricaturaux qu'on veut bien le prétendre. Et on va commencer avec vous, Daniel Larieux, puisque vous avez un petit quart d'heure à nous consacrer avant d'aller finir la préparation de votre spectacle Waterproof, donc qui ouvre le Festival de Marseille. Et j'aimerais qu'on réalise un petit flashback en 86 et que vous nous expliquiez comment vous en êtes arrivé à vous approprier ainsi une piscine olympique. Je ne sais pas si la première était une piscine olympique, mais en tous les cas, comment vous êtes approprié ce lieu qui est un lieu sportif pour une création artistique ?
D'abord, je crois qu'il faut rappeler que dans ces années-là, et ça c'est toujours le cas, la culture s'infiltre dans des zones urbaines indéfinies par la culture, encore une fois, et que l'espace de la piscine à l'époque, c'était une commande de Michel Reillat, qui à l'époque était directeur du CNDC d'Angers et qui m'avait proposé d'envahir donc cet espace qui était un espace dit sportif, même si j'aime pas trop ni le mot culture ni le mot sportif, pour vous dire la vérité.
Aïe, ça commence.
Et alors donc cette commande, vous n'aimiez pas le mot sportif, mais vous y êtes quand même allé, vous avez quand même accepté la commande et vous avez quand même réfléchi sur ce lieu. Mais vous avez réfléchi sur ce lieu en tant qu'artiste, et est-ce que vous vous êtes posé la question du lieu sportif, justement ?
Non, je définis pas mon travail par rapport à un lieu, je définis un travail par rapport à une pratique physique. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a fait énormément de progrès, par exemple, dans ce qu'on appelle la kinésiologie de la natation, c'est-à-dire tout ce qu'on met en place, en fait, pour pouvoir mieux définir le mouvement et comment progresser dans un mouvement, c'est-à-dire, au fond, affirmer des objectifs. Pour l'espace culturel, l'objectif il est assez facile à définir puisqu'il est indéfini. Voilà. Après, c'est le sport qui doit se débrouiller avec toute l'analyse du mouvement pour arriver à optimiser, je dirais, la qualité de quelqu'un par rapport à un objectif, encore une fois. Et l'objectif peut être extrêmement différent. Ça peut être un objectif compétitif, mais ça passe aussi par un objectif de qualité. Et je pense que c'est là aussi où on peut se rejoindre à un certain endroit, qui est l'analyse du mouvement.
D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que vous vous êtes penché très profondément sur ce qu'était le mouvement dans l'eau à l'époque et comment les nageurs ou comment les apnéistes, par exemple, travaillaient dans cette eau pour réaliser leur mouvement ?
Non, parce que je crois que le travail de l'apnéiste est, à mon avis, très, très singulier aussi. J'ai piqué une chose qui était très simple, qui était de regarder quand les filles de la synchro ne font rien, quand elles écoutent les notes. En fait, elles faisaient un truc assez spécial, elles flottaient sans rien faire. Et je me suis dit, oh, c'est bizarre. Elles n'ont pas besoin donc d'appui pour rester dans l'eau, même si elles ont pas pied. C'est très radiophonique ce qu'on dit là, mais enfin, bref. Toujours est-il, c'est que c'est possible de flotter sans nager, en tout cas dans ce qu'on appelle culturellement la natation, parce que ça aussi c'est très variable. Et à partir de là, je me suis dit, voilà un filon qui est assez intéressant parce qu'on va pouvoir pratiquer une autre pratique de la gravitation. Le reste a défilé après. Donc c'était, voilà.
Et alors, vous avez choisi des danseurs et non pas des nageurs pour ce spectacle. C'était les artistes qui vous entouraient à l'époque.
Alors d'abord, c'était même pas des danseurs. C'est pour vous dire à quel point on était relâchés à l'époque. Donc il y avait le directeur du CNDC d'Angers qui s'y est collé, parce que je lui ai demandé, et il est toujours là, mais depuis il est devenu autre chose que le directeur du CNDC d'Angers, puisqu'il travaille sur Arte, il est directeur de programme. Donc c'est comme si en fait j'avais dit ici, je prends le président du Cercle des Nageurs, puis hop, on le met dans l'eau avec nous. Il y a des gens qui en fait avaient des pratiques physiques qui n'étaient pas les pratiques de la danse, et à l'époque, il y avait deux nageuses qui nous ont accompagnées, parce qu'il fallait quand même qu'on puisse au moins être surveillé. Hein, parce que voilà, l'époque était un peu différente aussi. Et puis c'est une pratique qui allait dans un objectif, encore une fois, d'image, de panorama de l'eau. Donc il fallait aussi trouver des choses qui n'avaient pas été faites. Alors évidemment, il y a un système qui est extrêmement peut-être déceptif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de synchro. Hein, et ce n'est pas du tout spectaculaire ce qu'on fait, c'est très particulier.
Ça, on verra dans quelques minutes.
On vous laisse la surprise.
La bonne, j'espère. Alors, il y a quelqu'un qui a bien regardé le spectacle. Il nous a même dit qu'il l'avait étudié. C'est Roger Cadiou qui est à côté de nous. C'est un apnéiste. C'est quelqu'un qui a fréquenté Jacques Mayol tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui a empilé les titres européens et mondiaux de chasse sous-marine. Et c'est quelqu'un qui pratique également les arts martiaux. Et il nous a dit qu'il avait été totalement soufflé par votre spectacle et au niveau technique. Et je pense qu'il a des questions à vous poser, au niveau technique notamment. Allez-y.
Bonjour. Le président Lesser nous avait autorisé à faire un film pour le compte d'FR3. Ça s'appelait l'aïkido, mais c'était une boutade, puisque ce n'était pas do-do, c'était do-e-a-u. Et nous avons fait pendant... Tu te souviens, Paul ? Pendant 7 heures, nous avons travaillé sous l'eau. Pour travailler sous l'eau... C'était moins gracieux que ce que vous nous avez montré. Il y a le fait que nous avions 9 kilos de plomb à la ceinture pour pouvoir rester au fond. J'ai vu que, sans rien, vous arriviez sans faire une ride sur l'eau. Remarquez. J'ai vu que vous arriviez à bouger en orientant les pouces vers le haut, vers le bas, ce qui veut dire que vous restiez collé au fond par moment. Nous avions, avec les quelques personnes qui étaient ici, là, notamment des waterpoloistes et des aïkidokas, nous avons fait pendant 7 heures des exercices, mais nous prenions l'air non pas en surface. J'avais disposé au fond du bassin olympique, celui-là, là-haut, des bouteilles. Et à chaque technique, nous allions prendre l'air pour pouvoir faire d'autres. Tout le monde est là. Alors, je me suis demandé, avec 7 kilos de plomb, on arrivait à peine, à condition de ne pas mettre les pouces en l'air et les mettre vers le fond, nous arrivions à rester au fond et faire les techniques. Quand j'ai vu sur la cassette, vous m'aviez passé, quand j'ai vu que vous arriviez à faire un immobilisme parfait, je me suis dit, il doit y avoir une question de densité du corps et de l'eau.
Alors, y a-t-il un truc là-dedans? Comment avez-vous réussi cette performance?
D'abord, je précise que le travail est fait avec des gens. Il n'est jamais fait seul. C'est pas moi qui rêve la nuit de faire ça ou ça. C'est une collaboration. Non, mais je le dis quand même parce que c'est important. On n'est jamais tout seul dans un travail chorégraphique, encore moins. Je dirais qu'il y a deux types de corps pour moi aujourd'hui. Il y a les corps qui sont à dominance sèche, des gens qui sont très secs et qui ont tendance à pratiquer le fond plus facilement que les poids-plumes qui ont tendance à flotter. Donc dans le spectacle, en fait, on a deux séries de personnes. Nous avons les flotteurs et les couleurs, en gros. Et puis les couleurs sont des gens qui travaillent plutôt l'apnée basse. Et puis les gens qui flottent sont plutôt des gens qui travaillent plutôt l'apnée haute. Voilà, c'est tout. Simplement, vous, quand vous preniez l'air au fond du bassin, vous repassiez en apnée haute, ce qui fait que vous deviez remonter directement. Alors que là, tous les gens sont, quand ils sont au fond du bassin, en apnée basse. Et c'est une apnée qui est un peu plus déprimante, si je peux dire ça comme ça, et qui demande simplement de ne pas aller dans les extrêmes, ni d'un côté ni de l'autre, ni en apnée basse, parce que ça devient particulier, ni non plus dans l'apnée haute, parce que là, on part aussi dans des... C'est une petite moyenne à pratiquer. Ça s'appelle une pratique physique.
Alors, Daniel Larieux, vous avez créé Waterproof en 86. Vous l'avez recréé en 2006, je crois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de recréer ce spectacle? Et qu'est-ce que c'est une recréation?
Une récréation. Ben, c'est toujours des histoires de commandes. On fait un spectacle il y a 20 ans et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient vous voir 20 ans après en vous disant « Est-ce que ça vous donne envie de refaire? Est-ce que c'est bien de refaire ?» Là, je dis « Deux secondes, j'appelle tout le monde et puis on verra. » Donc, première chose que j'ai fait, j'ai rappelé les mêmes d'il y a 20 ans. Je savais qu'il y avait une majorité de gens qui étaient prêts à refaire le truc 20 ans après, avec plein d'autres choses différentes aujourd'hui. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Bon, on va prendre des jeunes aussi avec nous, histoire que ça soit aussi un peu de transmission. » C'est eux qui vont remonter la pièce dans 20 ans. Hein. Donc il fallait déjà préparer l'idée qu'on pouvait remonter dans 40 ans Waterproof. Et puis c'est parti. Voilà. Moi, a priori, comme ça, tout seul, je n'avais pas très envie de remonter parce que c'est très particulier. Après, une fois qu'on est parti dans un élan, on se dit est-ce que ça peut marcher au niveau de la production. Puis ça marche. Et puis on est à Marseille pour les 21 ans. Voilà, c'est comme ça. Il faut apprécier aussi ça dans le bon sens.
Et les enjeux artistiques de cette recréation pour vous?
Ça, c'est l'histoire qui fait ça, c'est pas moi. Je veux dire, c'est vrai, on fait des trucs, on sait pas pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Et puis, peut-être que l'histoire, au bout d'un moment, ça indique aussi un certain parcours. Il y a des gens qui ont des parcours esthétiques aujourd'hui qui sont plus proches de cette pièce. Et puis, voilà. Mais c'est pas moi qui fais l'histoire, c'est l'histoire qui fait l'histoire. Je m'en mêle pas.
Ça a été facile? Il y avait des traces suffisantes pour créer ça de façon facile ou
On avait la trouille. Mmh. On a eu la trouille, on s'est retrouvé la première fois en piste, on a passé 3 heures, on était épuisé. On s'est dit oh là là, on savait que 15 jours après on allait passer 6 heures dans l'eau. Enfin, on se levait le matin, on était à 9 heures dans l'eau, 9 heures midi, 14 heures, 16 heures, 17 heures. Je ne raconte pas comment on a dormi. Mais bon, moi je pense que c'est vraiment une pratique. C'est-à-dire qu'au plus on est dans l'eau, au plus on pratique l'eau, au plus on a un rapport à ça. Et ça se voit dans les gens qui nagent, la différence entre la glisse, la différence entre la matière brutale d'attaquer la flotte ou pas. Enfin, tout ça est une affaire de qualité. Je pense qu'on peut faire la même chose dans l'air, même si les pratiques sont extrêmement différentes.
Alors, j'ai entendu ce matin une de vos danseuses qui expliquait que son rapport à la danse avait changé à partir de ce spectacle. Alors, est-ce que vous aussi, ça a changé votre vision de la danse? Ça a changé votre travail d'avoir créé Waterproof?
Oui, je crois que tous les... J'ai envie d'en parler plus généralement, parce que chaque fois qu'on déplace légèrement une chose, on apprend des choses. Ça se voit dans la limitation du mouvement, on progresse dans le mouvement. Ça se voit dans d'autres hypothèses de travail. Je dis pas les yeux fermés ou peu importe, mais je pense voilà où je dirais aussi la chose qui a été la plus brutale pour moi au départ de ce travail, c'était nager dans le noir par exemple. C'est très spécial de nager dans une eau dans laquelle il n'y a pas de lumière et on ne sait pas où on va. C'est très spécial aussi dans la qualité de ce qu'on se représente. Voilà, tout ça, ce sont des opérations qui décalent et on apprend toujours des choses en se décalant.
Qu'est-ce qui reste à préparer là avant la représentation? Vous nous avez dit que vous pouvez pas rester longtemps. Et...
C'est une histoire un peu cardiaque là.
C'est-à-dire
bah, il faut fermer la boutique, en tout cas socialement, il faut juste avoir un peu de réserve et puis contacter des choses plus intimes, je dirais. C'est pas qu'on n'est pas intime, hein, c'est juste que voilà, il y a des moments donnés où il faut savoir aussi passer un peu de temps avec soi-même pour être tranquille.
Ça consiste en quoi la préparation d'avant une représentation comme ça? Pour vous et pour vos danseurs?
En fait, ne rien faire mentalement. Non, c'est con, hein, mais c'est vraiment l'idée du repos mental. C'est pas tellement le repos physique, c'est plutôt l'idée de ce qu'on pourrait appeler le relâchement. Il y a ça dans plein de méthodes de travail, ça s'appelle reposez-vous.
C'est ce que les sportifs appellent la concentration d'avant match ou d'avant compétition. Ça ressemble.
Il faut leur demander. Justement,
on en a. On va leur demander. Éric Dimeco, puisqu'il est juste à côté de moi. Éric Dimeco, alors vous? Vous êtes un grand sportif.
Ancien
grand sportif, champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille en 93, ça tout le monde le sait. Alors, vos rapports avec la danse, vous déjà, pour commencer?
Très moyen.
Ils sont étroits?
Non, pas trop, non.
Alors justement, quand quand Daniel Larieux parle comme ça de préparation, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Est-ce que ça vous fait penser à ce que vous viviez avant, avant les rencontres, par exemple ?
Oui, enfin, je, par rapport au fait de se vider la tête avant une compétition, par exemple, c'est vrai qu'on retrouve ça dans un vestiaire avant un match. On se concentre sur ce qu'on a à faire et on essaie d'oublier tout ce qui peut nous parasiter avant un match ou lors d'une journée avant un match. Et le fait de se reposer aussi, se décontracter, c'est la discipline doit être physique puisque c'est à peu près la même préparation en effet.
Et c'est un repos mental également, ouais, vraiment ?
Bah oui, on essaie justement de positiver, enfin d'essayer de voir que des images positives. Nous, c'est ce qu'on nous disait à l'époque, c'est-à-dire que quand on se voit un petit peu avant le match, on voit que des choses positives, que des bons gestes, que des voilà, on essaie d'évacuer les négatifs et en espérant que ça n'arrivera pas pendant un match.
Ça correspond, Daniel Larieux ?
Soyons honnêtes. En fait, nous, aujourd'hui, on intègre aussi l'aspect négatif sans le juger. Voilà. Si j'affine un peu. Mais je pense que dans la compétition, les gens sont jeunes, souvent. Et nous, comme on est seniors maintenant, on a plus une habitude de peut-être éviter la distance avec soi, puisqu'on affine ce soir. Donc, y compris les images négatives qui peuvent être aussi des fantômes. Ce sont des images qu'il faut intégrer et pacifier, en fait, ces images-là, de manière à ne pas les refouler. Je pense que là, on est dans une préparation fluide et assez disponible à tout, parce qu'il peut tout se passer dans un spectacle, mais comme dans une compète, y compris les choses qu'on ne souhaite pas, évidemment.
Paul Letia, je crois que vous avez vu quelques répétitions de Waterproof dans votre bassin du Cercle des nageurs marseillais. Comment vous trouvez ?
Je trouve ça somptueux, remarquable. Ça m'a beaucoup plu. Alors, sur le plan artistique, je ne suis pas très à même d'en discuter, mais en tout cas, ça m'a profondément touché. Et l'émotion compte énormément pour moi. L'affect compte énormément. Et d'ailleurs, si on est là, c'est une question d'affect avec Apolline Quintrans. Parce que quand elle est venue me proposer de faire ce spectacle, j'ai tout de suite répondu oui. Et je dois avouer que je ne savais pas que ça allait être aussi bien. Donc, vraiment, je suis ravi que vous ayez choisi le cercle. Le cercle des nageurs, c'est un cercle ouvert. Et en tout cas, c'est un cercle heureux ce soir. Nous, on a vu la générale hier. C'était très bon. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être encore meilleur.
Alors, vous n'avez même pas demandé la cassette pour voir de quel spectacle on voulait vous faire l'hôte.
Pour tout vous dire, c'est la vérité. La cassette, on me l'a prêtée, on me l'a passée et elle est toujours au même endroit. Je ne l'ai pas regardée. Mais par contre, quand Pauline et son équipe sont venues me voir, je dois dire que je ne réfléchis pas beaucoup. Et là, j'ai encore moins réfléchi que d'habitude.
Alors, il y a souvent des manifestations artistiques au Cercle des nageurs ?
Ça arrive, ça arrive. Nous, vous savez, ce que nous voulons, c'est le partage. Et on aime partager avec ceux qui créent, ceux qui font, ceux qui ont envie de faire, même si quelquefois il y a quelques petites erreurs, pas aujourd'hui, pas hier et pas demain, mais on aime ça. On est sportif, on aime un peu se mettre en danger. Et se mettre en danger, c'est quelquefois dire OK et après assumer. Parce que le problème est là, après on assume et quand on assume et qu'il y a du résultat, la partie est gagnée, on est content de ce qu'on a fait, sans se prendre au sérieux, on peut dormir tranquille.
Peut-être deux mots sur ce lieu qui nous accueille ce soir et qui accueille le Festival de Marseille surtout. Peut-être deux mots sur l'histoire de ce lieu, c'est quoi ? Vous avez bientôt 100 ans, c'est pas loin ?
On est né en 1921, donc bientôt. Et si vous voulez, bon, évidemment, ça va peut-être paraître un peu prétentieux parce que j'aime tellement mon club que ce que je vais dire est certainement honorifique. Et si vous voulez, c'est un club donc qui a été créé en 1921 par d'audacieux bâtisseurs pour faire de la natation et du water-polo. Au niveau natation, on a été au plus haut niveau. Et ce niveau, eh bien, on l'a perdu petit à petit quand on a eu des problèmes avec notre bassin olympique. Mais on s'est attelé à la tâche et on a pu reconstruire le toit de ce bassin. Et aujourd'hui, vous voyez qu'hier, je l'ai vu, il était merveilleux. Notre équipe de polo, eh bien, ça fait 29 fois qu'elle est championne de France. Cette année, on est allé en quart de finale Dans les quatre derniers, nous avons deux équipes, Olympiakos et Dubrovnik, qui nous ont battus. Nous avons quand même battu Olympiakos chez nous. Donc, l'année prochaine, j'espère qu'on fera mieux. On va aller au championnat de France à Saint-Raphaël la semaine prochaine. Et on s'est donné rendez-vous à nous-mêmes en disant qu'on allait avoir au moins 10 titres. Alors, vous voyez, c'est prétentieux, mais on prend des rendez-vous et on assumera. Si on ne les a pas, ben on se remettra au travail.
Alors, j'ai entendu dire que vous aviez fait des gros efforts pour essayer de convaincre Laure Manaudou de vous rejoindre. C'est vrai, ça ?
C'est absolument faux. Absolument faux. Nous, ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la future Laure Manaudou. Laure, c'est une fille éminemment sympathique qui, bon, pour des raisons qui lui sont propres, a quitté Canet, a quitté Melun, a quitté Canet. Aujourd'hui, elle est à Turin. Peut-être qu'elle va quitter Turin pour venir à Marseille. Mais si elle vient à Marseille, ça sera à sa demande et pas à la nôtre. En ce moment, nous cherchons la future Manaudou et j'espère la trouver sous peu.
Apolline Quintran, c'est l'ouverture de cette 12e édition du Festival de Marseille, dans ce cercle des nageurs marseillais, avec ce spectacle Waterproof. C'est une importance particulière pour vous de commencer avec ce spectacle dans ce lieu-là ?
Oui, parce que je crois que Waterproof représente tout ce que le festival aime faire, c'est-à-dire une proposition artistique forte, décalée, et en même temps investir un lieu qui, au niveau de son histoire, est puissant. Et en même temps, ce qu'a fait le festival depuis plusieurs années, permettre aussi à un public qui n'avait pas la possibilité d'entrer dans un lieu, d'y venir à l'occasion du festival. Et c'est ce qui se passe ce soir, parce que le Cercle des Nageurs, ne l'oublions pas, est un cercle privé, fermé. Donc c'est une occasion exceptionnelle pour le public de venir ici. Et c'est aussi, je crois que tout à l'heure, Daniel Larieux disait quelque chose d'important sur sa motivation ou sur ce qu'il avait amené à faire Waterproof. C'est aussi de déplacer des possibles, des expériences. Et c'est ce qui se passe avec Waterproof, mais c'est ce qui se passe aussi quand on investit un lieu comme celui-là. Hier soir, il y avait la générale de Waterproof. Ce sont des exceptionnellement, elle a été ouverte non pas aux professionnels, mais aux membres du Cercle des Nageurs. Je pense que certains ont eu un choc. Ce sont des gens ici qui font à des niveaux très importants de la natation, du water polo. Et pour une fois, ils ont vu non pas la natation se faire à l'horizontale, mais à la verticale. Donc je pense quand même que ça a dû, Paul, interpeller quand même pas mal de gens. Mais c'est cela qui est bien dans la confrontation, dans l'échange. Et tout à l'heure, Paul Essia disait avec beaucoup de gentillesse qu'il avait dit oui au projet. Je crois que il y a des liens d'amitié, mais il y a aussi l'engagement d'un club qui a les valeurs que l'on connaît du cercle, qui a une exigence, qui a aussi dans la ville qui joue aussi un rôle dans son domaine, qui est le domaine sportif, et le festival. Et je crois aussi qu'on s'est retrouvé sur des exigences, sur une valeur, sur un désir et un rêve à partager. Et ça, c'est important de mutualiser ses moyens à un moment donné pour faire des choses et avancer dans sa propre ville.
Alors vous parliez de la générale hier, mais je ne sais pas si Frédéric Audon, qui est capitaine donc de l'équipe du CNM de water polo, champion de France, double champion de France là sur les deux dernières années, je ne sais pas s'il était triple champion de France sur les trois dernières années, donc me fait-il signe. Je ne sais pas s'il était là hier pour la générale. Non, il n'était pas là. Alors quel est votre rapport, vous, avec le monde de la danse ? Quel est votre rapport avec le monde culturel ? Alors est-ce qu'on est dans cette caricature dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire deux mondes qui s'ignorent un petit peu ?
Un rapport lointain. Sinon, non, c'est vrai, je sais pas, j'ai vraiment aucune expérience à ce niveau-là. J'aurais peut-être pas été à même de juger hier soir si j'avais été présent pour ce ballet.
Vous allez donc rester tout à l'heure. Vous attendez quelque chose de particulier ? Ça vous fait quoi de voir des danseurs dans une piscine ? Une piscine, c'est plutôt votre lieu de combat, vous, d'habitude.
Oui, mais bon, on fait partie d'une fédération où il y a d'autres sports. Donc, il y a la natation, il y a aussi la natation synchronisée. Donc, bon, c'est vrai qu'on a déjà vu des ballets. Il paraît que celui-là est complètement différent, avec une phase sous l'eau. Donc, bon, je ne sais pas à quoi m'attendre ce soir, quoi.
C'est donc une grande première pour beaucoup de, pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde.
Alors Apolline, justement, en 12 ans de Festival de Marseille, allez, une anecdote, combien de joueurs de l'OM vous avez vu passer dans les tribunes, dans vos tribunes, j'emploie le mot à dessein, dans, dans les salles que vous avez investies. Alors là, on a Eric Dimeco ce soir, oui, mais alors, est-ce qu'il y en a d'autres?
Mais là aussi, c'est une grande première cette année. Eric Dimeco est ici. Et surtout, Pierre Rigal, cette année, présente une pièce sur la c'était la demi-finale, là, je ne vais pas, il ne faut pas que je dise de bêtises, la demi-finale de 1982, la Coupe du Monde de football à Séville. Et Pierre Rigal a remonté une pièce absolument, a monté une autour de cela et de souvenirs d'enfance, mais avec s'appuyant sur les commentaires de l'époque, etc. Et il va vous en parler. Donc cette année, oui, le sport est très très présent dans l'édition du festival, mais bien évidemment avec la manière que nous avons, nous, qu'ont les artistes de le traduire dans un projet.
Mais c'est une coïncidence quand même qu'il y ait tant de sport dans la programmation du Festival de Marseille, tant d'inspiration sportive, on va dire plutôt.
Oui, mais en fait, je crois que je dois aimer les danseurs sportifs, puisque Michel Kelemenis, faisons le tour de la table, Michel Kelemenis est présent ici, que le festival a toujours été très proche de Michel et dès sa création en 96-97, et que Michel aussi est un ancien gymnaste de haut niveau. Donc, non, moi, ce que je crois vraiment intéressant, et c'est pour ça qu'il y a ce type d'artiste au festival, je trouve vraiment toujours intéressant le déplacement de ce qu'on appelle les outils ou le processus de création là où on ne l'attend pas. Donc, effectivement, le sport, mais il y a ici des gens tout à fait qualifiés pour parler aussi du corps, du mouvement, tout ça, il faut le relier. C'est pour ça, tout à l'heure, peut-être que Daniel Larrieux ne voulait pas cette dichotomie et cette cassure entre le sport et le geste artistique ou la création, parce que là, il est question de corps, il est question de mouvement. Mais bien évidemment, il est extraordinaire. Alors cette année, moi, je ne suis ni sportive, je sais à peine nager et je ne suis pas danseuse. Donc cette année, j'ai, avec beaucoup de liberté et puis peut-être un peu d'inconscience, déplacé le centre de gravité un petit peu de tout le monde et des danseurs. Dans l'eau, c'est absolument exceptionnel parce que l'on voit une chorégraphie et le travail de Daniel était très osé. Lui-même le dit, c'est un spectacle un peu rude, était très, très singulier. Je ne dis pas osé, était très singulier il y a 20 ans. Je pense qu'il reste très singulier maintenant. Et j'aimerais bien avoir l'avis de Michel là-dessus, puisque Michel connaît cette pièce.
Ça reste singulier parce qu'après 20 ans, il n'y a pas eu d'exemple qui ont suivi. Ça n'est pas une école. Il y a eu un projet particulier à un moment qui, donc c'est le regard d'un chorégraphe sur un domaine, le domaine aquatique, donc un espace qui nous est pas très naturel, on va dire. Et si on regarde le spectacle, il n'y a pas de très très nombreux éléments et les images ont chacune besoin d'un temps important. Oui, pour exister, donc c'est une succession d'images qui portent plutôt beaucoup de douceur et qui arrivent malgré. J'ai souvent expérimenté au bord de mer ou dans une piscine le fait de vider mes poumons et de me laisser couler. Évidemment, à peine je touche le fond, je repousse immédiatement, c'est une terreur. Évidemment, de nombreuses images sont de cet ordre-là où les danseurs vident d'air, coulent. Et ils font ça avec une quiétude et donc arrivent à créer des images dans une durée, poumon vide, c'est donc une durée qui est complètement autre que celle d'un humain sur Terre en train de faire quelque chose. Et ils nous amènent vers cette magie-là. Et il y a un autre petit point magique, c'est évidemment les danseurs qui accèdent à l'eau sans faire trembler la surface. Et voilà, ces petits moments magiques ne pouvaient sans doute venir que d'un artiste, peut-être d'un chorégraphe, peut-être d'un autre. Mais là, c'est un chorégraphe. Et c'est absolument magnifique. Alors, ça reste très, 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 très unique aujourd'hui.
Je crois que j'ai lu quelque part qu'à propos de ce spectacle, merci pour le potard, y a quelqu'un qui avait parlé d'une extase de la lenteur à propos de Waterproof. Alors, Apolline Cantran a rappelé que Michel Kelemenis et Pierre Rigal avaient tous les deux des passés de sportifs de haut niveau. Moi, je voulais vous demander à tous les deux, qu'est-ce qui vous a poussé à laisser le sport pour aller à la danse.
On peut peut-être préciser, le passé de sportif de haut niveau, c'est la gymnastique pour Michel Kelemenis. Et oui, pour Pierre Rigal, c'est du 400 mètres. Vous étiez coéquipier de Stéphane Diagana, ou vous étiez pas loin, en tous les cas, dans la même génération. Et vous couriez après, d'après ce que vous m'avez expliqué.
Non, il est un peu plus âgé que moi. Il est bien meilleur que moi aussi.
Il courait plus vite, d'accord.
Il courait bien plus vite. Mais je l'ai un petit peu côtoyé lors de certaines compétitions. Mais il est quand même plus âgé que moi, donc j'ai jamais couru contre lui.
Alors, qu'est-ce qui vous a amené à laisser le sport pour la danse ?
C'est la blessure. C'est la blessure qui, à l'âge de 22-23 ans, m'a obligé à arrêter. En fait, j'avais une déchirure à la cuisse qui m'empêchait de poursuivre la pratique du sport à haut niveau. C'est un cas relativement banal pour des sportifs. Il y a beaucoup de sportifs qui sont obligés d'arrêter pour des raisons de blessure. Donc, à la suite de cette blessure, j'ai commencé une nouvelle pratique que je trouvais moi-même sportive, c'était la danse. J'ai fait la danse africaine, un petit peu par hasard. J'ai découvert ça par hasard et c'est une pratique tout à fait physique et sportive. Et j'ai accroché de suite et je me suis lancé dans cette pratique avec beaucoup de sérieux, de passion. Et puis finalement, j'en ai fait ma pratique professionnelle.
Michel, toi, qu'est-ce qui t'a amené à laisser la gymnastique pour la danse ?
Le déplaisir de la compétition. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ce combat ne m'intéressait plus du tout. En matière de gymnastique, donc, il y a les six agrès, sol, arçon, anneau, parallèle, fixe, saut. Je suis allé un peu vite, mais bon, les agrès de la gymnastique. Et c'est un sport où il faut toujours prendre un risque supplémentaire pour une figure qui a un tour de plus, qui a la tête à l'envers, etc. Et c'est un corps qui est très, très sollicité, très torturé quand même. Et il y a un moment où ce risque supplémentaire, cet engagement supplémentaire pour aller battre un autre m'a un peu lassé. Voilà. Et donc ça correspond à peu près au moment où j'ai été amené à croiser la danse, qui, parce que lorsqu'on apprend la gymnastique entre l'âge de 9 ans et l'âge de 17 ans, on le fait évidemment avec une phase de jeu, et puis l'air de rien, soudainement à 17 ans, tout ceci devient une valeur positive, non plus un combat, mais positive, parce qu'on sait déjà faire quelque chose de son corps dans l'espace. Et je sais qu'aujourd'hui, ça continue, la gymnastique continue très très profondément à guider mon cheminement. Non pas que j'ai des figures dans mes spectacles qui soient des figures relatives au sport, c'est pas du tout ça, mais c'est le goût du déséquilibre, le déséquilibre entraînant une fluidité, par exemple, toujours présent. C'est un goût insensé pour le geste précis, mais pour la façon dont ce geste s'engage, jusqu'à quel point de définition et de forme, on va dire, il arrive, parce que, en gymnastique, si je ne fais pas bien, je me vautre et je me blesse. Donc ceci est un goût qui se cultive entre 9 et 17 ans et je l'ai gardé sans doute pour toujours, pour toute ma vie de danseur.
Pierre Igal, votre parcours de sportif influence également votre langage chorégraphique aujourd'hui ?
Oui, je peux dire que le sport, ça a été ma formation pour la danse. Pour moi, c'est un chemin assez naturel qui peut étonner autour de cette table, mais en fait, pour moi, c'est un chemin tout à fait naturel. Je m'inspire en effet du geste sportif pour le traduire sur un plateau chorégraphique. Et ce que j'aime dans le geste sportif, c'est qu'il a pour objectif premier, enfin comme unique objectif d'ailleurs, c'est d'être efficace. Et non pas d'être beau. Un joueur de football... au niveau de la coiffure ou au niveau des vêtements, ils essayent d'être beaux, mais sinon
un short et un maillot habituellement.
Ouais, mais il y a quand même des effets. Ouais. Et donc non, ce qui se passe, c'est que l'objectif du sportif, c'est de réaliser un geste qui soit efficace, qui soit utile, marquer un but au football ou marquer un but aussi au water polo. Et voilà, ça c'est l'unique objectif du sportif. Et lorsqu'on analyse ce mouvement, par exemple lorsqu'on le regarde à la télévision au ralenti, eh bien on y trouve de la beauté, on y trouve de la grâce et on y trouve de l'émotion. Chose qui n'est pas l'objectif du sportif, qui n'est pas conscient forcément de ça. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est la recherche d'une efficacité dans un mouvement, dans un déplacement, un saut, eh bien on va pouvoir trouver de la beauté. Et aussi, ce qui se passe dans le geste sportif, c'est qu'il allie deux forces qui sont a priori contradictoires. Il nécessite beaucoup de force, de puissance. Bon, dans le cas de l'athlétisme, c'est flagrant. Dans le cas du football aussi, il faut déployer une grande force. Et en même temps, il faut déployer une grande décontraction pour réaliser un geste parfait, il faut avoir un corps fluide, un corps qui n'est pas gêné par des contractions. Et donc, finalement, instinctivement, ces deux forces sont plutôt paradoxales. Et on le voit chez l'enfant, par exemple, lorsqu'on lui demande de courir très très vite, le plus vite possible, eh bien, il va grimacer, il va bloquer ses épaules, il va avoir une course un petit peu étriquée. Ça, c'est son geste naturel. Et en fait, il fait des choses qui sont contradictoires, c'est-à-dire en faisant une grimace ou même en retenant sa respiration, on va à l'encontre de la rapidité, de la vitesse et de la puissance. Donc tout l'entraînement consiste à allier ces deux énergies, force et des contractions. Donc c'est des choses que je peux aussi développer d'un point de vue chorégraphique.
Frédéric Audon, ça vous arrive, vous, de vous poser la question de la beauté de votre geste quand vous êtes dans la piscine ?
Non, c'est drôle qu'on parle de ça, parce qu'en fait, il y a 2 ans, on avait un entraîneur serbe ici qui nous disait que c'était important qu'un geste efficace soit beau, parce que ça attirait l'œil et que du coup, on faisait en sorte que ça fasse plaisir au public. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, parce qu'on retrouve souvent ces deux choses. Quelque chose d'efficace est souvent beau, et du coup on essaie, en fait c'est lié, quand on fait quelque chose, on va marquer un but, on va faire un beau mouvement. Ce que les gens trouvent beau, c'est quand ça réussit. On trouve rarement une reprise de volée au football superbe si elle est passée 10 mètres au-dessus de la cage. On dit justement que c'est superbe parce qu'elle est au fond.
Il y a des buts qui sont moches quand même.
Oui, alors ça c'est aussi, on va dire que... Mais on parle rarement, quand un but est moche, d'efficacité. Quand on parle de quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qu'on trouve élégant sur un terrain, que ce soit dans tous les sports. Et donc c'est vrai que ces deux paramètres sont souvent liés en fin de compte.
Alors Sylvie Bateau, vous êtes professeure de danse à la faculté des sports de Lumini, hein, c'est bien ça. Et alors vous, dans votre cours, qui est obligatoire, arrivent des élèves qui se destinent plutôt à faire du sport. Et ils se retrouvent dans un cours de danse obligatoire. Et là, vous êtes là à leur apprendre la créativité, la beauté peut-être du geste également. Comment ça se passe ? S'il y a des tiraillements, j'imagine ?
Bon, d'abord, c'est un public a priori sportif, c'est-à-dire que chacun rentre avec une spécialité, bon, plus ou moins à un niveau plus ou moins haut. Et le premier cours, si je le décris, le premier cours de danse, c'est au départ des personnes assez timorées, je parle en général, et au bout du deuxième cours, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui fait c'est pas que je sois géniale. C'est que, bon, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à la fac, on est dans la logique de l'EPS, comme au collège ou au lycée. Donc, on va viser plutôt la créativité. La technique va être un moyen. Et ce n'est pas l'image d'un cours, comme on pourrait imaginer, de danse à l'extérieur de l'école, où on va travailler surtout la technique. Là, on va travailler plutôt sous forme d'atelier, et on va les faire passer par des fondamentaux qu'on a identifiés dans la danse contemporaine, que sont l'espace, le temps, l'énergie et la motricité du corps. Et à partir de tout ce petit passage, petit à petit, on part de l'étudiant, hein, on le met au centre évidemment, et petit à petit, on va faire en sorte qu'il soit de plus en plus à l'aise dans cette motricité. Ça, c'est le premier objectif, qu'ils se sentent à l'aise, parce que dans leur tête... Je ne suis pas fait pour la danse, ou la danse, c'est un sport de garçon. Non, ce n'est pas possible pour certains. Bon, il y a plein d'a priori qu'il va falloir faire glisser vers d'autres représentations. Quoi.
Voilà. Et au niveau de la pratique sportive, ça leur apporte quelque chose au final ? Qu'est-ce que ça leur apporte ?
Oui, parce que déjà, on ne part pas de zéro. Hein. Ils ont déjà une motricité, et on part justement de cette motricité qu'on va transformer pour en arriver à de la danse. Parce qu'en fait, la différence entre un geste, on va dire, sportif et un geste de danse sera peut-être aussi un engagement soit émotionnel, soit intentionnel du moins, qui fait qu'ils vont basculer d'un geste qu'ils exécutent à un geste qu'ils interprètent. Donc déjà ça. Et... voilà, déjà, c'est ce qui me vient
à la tête. Ça amène une performance au niveau sportif. Ça peut amener une performance, ça, d'interpréter un geste plutôt que de l'exécuter.
Disons que la performance, c'est un moyen. C'est-à-dire que selon ce qu'on veut, traduire ou ce qu'on veut amener ou le projet de communication qu'on a, Si on a besoin de s'investir de manière performante, j'allais dire, on va s'en servir. Mais ce n'est pas, c'est pas la première finalité.
Michel, vous saviez que la danse était obligatoire à l'UFR STAPS, à Lumini, à l'Université du Sport ?
Je ne savais pas, mais c'est très normal. Je trouve... il y a, ne serait-ce que dans cette mise en jeu d'une autre façon du corps, effectivement débarrassé peut-être d'un aspect de performance, hein, je reviens sur ce mot, de considérer le corps, l'environnement de celui-là, etc., différemment, soi-même. Je crois qu'il y a quelque chose de très très important, en particulier lorsqu'il s'agit là de gens qui sont destinés à être formateurs. Il faut donc pouvoir peut-être avoir eu ce malaise du corps dégagé de la nécessité d'un trait précis, disons, pour à un moment comprendre le malaise de l'autre. Donc c'est évidemment très heureux qu'après un seul cours déjà. C'est très important, ouais. Parce que ça veut dire que c'est finalement le moment de la bascule qui est le plus difficile à faire. Mais après, se retrouver dans un langage un peu incongru avec d'autres gens dans une situation d'atelier est en fait une chose très très agréable à vivre.
Laurence Mouchnino, donc, qui est également professeur chercheur enseignante à Lumini.
C'est juste pour raconter une anecdote justement entre les relations sport et danse. On les amène à la pratique, mais on les amène aussi voir des spectacles. Et un soir, on a amené nos 250 premières années voir un spectacle à la Criée, un chorégraphe. Et c'était le soir de match OM Saint-Étienne.
Crucial.
C'était un match crucial, mais ils étaient obligés.
Ils ont dû vous haïr. Ils ont dû vous haïr.
Ils nous ont haïs. Et à la mi-temps, comme ils ont dit, oui. Dit, est-ce qu'on peut, ils étaient sociaux à l'OM, est-ce qu'on peut aller finir la deuxième mi-temps du match ? Alors je lui dis ici, non. Il n'y a pas de mi-temps, c'est un entracte d'abord, et vous êtes obligé de rester jusqu'au bout et de voir la deuxième partie. Mais c'est pour un peu caractériser nos étudiants.
Donc ils n'avaient pas été conquis par la première mi-temps du spectacle ?
Ben, ils avaient... Eux, ce qu'ils voulaient voir, c'était des danseuses, et la première partie était majoritairement masculine, mais la deuxième partie les a...
si on caractérise... C'est terrible ce que vous nous racontez.
Oui, oui.
Donc, la deuxième partie était plus mixte.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve qu'il y a quand même une évolution au sein des étudiants. Au départ, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'a priori que maintenant. Les étudiants actuels ont plus l'habitude d'aller déjà faire de la danse à deux. À l'intérieur du campus, il y a des propositions de salsa et toute cette pratique. On propose aussi des stages de danse africaine. Toute cette pratique parallèle fait que déjà ils sont beaucoup plus familiarisés avec le geste de danse, pas forcément dans l'optique artistique, mais en tout cas un geste dansé. Et ça, on le retrouve aussi à l'intérieur des cours. Je pense qu'on a à l'intérieur de l'AS, c'est-à-dire l'association sportive, on a de plus en plus de garçons à l'intérieur de l'association sportive, ce qui est un plaisir, parce que garçons et filles mélangées, je trouve que ça apporte un dynamisme et ça remélange les cartes, et c'est pas mal.
Ouais. Laurence Mouchnino, vous êtes chercheur donc en sciences du mouvement. Est-ce que vous apprenez vous avez écrit une publication Stratégie de contrôle de l'équilibre et de la position de la tête pendant l'élévation d'une jambe. C'est à savoir. Est-ce qu'il y a des choses que vous apprenez de la danse que vous n'apprenez pas du sport dans vos recherches en sciences du mouvement ?
Bah écoutez, je vais vous répondre un peu différemment. Le métier de chercheur, c'est en fait un peu comme le métier de chorégraphe. En fait, on crée un objet nouveau et on utilise des outils qui sont sophistiqués ou moins sophistiqués. Et dans ce cadre-là, on utilise la motricité humaine et la motricité qui est poussée jusqu'à, on va dire, son paroxysme, les danseurs. Donc moi, j'ai commencé avec les danseurs. Mais j'ai aussi testé sur le contrôle du mouvement aussi des nageurs, du cercle d'ailleurs des nageurs. Du cercle ici, qui avait 15 à 20 heures de pratique de natation. Alors pourquoi j'ai comparé des danseurs avec des nageurs, donc puisqu'on est ici dans ce débat, c'est que je m'intéresse aux informations sensorielles qu'on prend, notamment avec des capteurs de pression qu'on a distribués dans notre corps, et comment ces capteurs concourent au contrôle de l'équilibre. Et quand on danse, surtout en danse contemporaine, qu'on danse pieds nus, on stimule énormément nos capteurs, ce qui améliore le seuil de sensibilité. Et par contre, j'ai remarqué que chez les nageurs, le seuil de sensibilité était complètement, on va dire, différent des danseurs, voire des sujets, on va dire, contrôle qu'on teste, et que les performances au niveau de l'équilibre étaient moindres. Donc c'est en fait, j'ai utilisé le nageur en termes de sous-stimulation de ses capteurs de la sole plantaire. Et je voudrais dire aussi que dans le cadre de mes recherches, j'expérimente aussi des milieux pas aquatiques, mais des milieux en apesanteur, puisque avec le CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales, on nous permet d'aller faire ce qu'on appelle des campagnes de vol parabolique, c'est-à-dire qu'on prend un Airbus, l'Airbus de tout le monde, et cet Airbus fait des paraboles, et en haut de la parabole, pendant 20-25 secondes, on est complètement en apesanteur. Et là, on expérimente une expérience du corps qui est complètement différente. On fait des mouvements qui ne nous font pas bouger, pas avancer, sauf si on a un appui sur le sol ou sur la carlingue de l'avion. Donc c'est assez... c'est une expérience qui est...
Est-ce que ça veut dire que les nageurs ont un équilibre moindre que les danseurs ? C'est à cette conclusion que vous êtes arrivé ?
Non, ils ont des stratégies différentes. Par exemple, quand vous allez faire des gestes de la vie quotidienne comme initier la marche ou monter une marche d'escalier, on voit qu'ils pressent, qu'ils appuient plus au sol. Et en fait, c'est simplement une des interprétations qu'on apporte, c'est pour stimuler des capteurs, on va exercer beaucoup plus de force qu'il n'en faut. Que le ferait par exemple un danseur ou un sujet naïf. Et on a comparé ça. Alors on s'est demandé est-ce que c'était la natation, le milieu aquatique qui faisait ces différences-là, ou est-ce que c'était l'entraînement sportif de longue durée. Et on a testé des triathlètes qui ont des sports terrestres et aquatiques, et on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes stratégies que les nageurs. Donc c'était bien l'eau.
Pierre Rigal, peut-être deux mots sur Arrêt de jeu. On a évoqué rapidement ce projet tout à l'heure, cette proposition tout à l'heure. Ça part d'un traumatisme lié à une demi-finale, c'est ça ?
Demi-finale de Coupe du Monde, oui.
De Coupe du Monde.
En 1982.
Un traumatisme crânien célèbre et un traumatisme d'enfance aussi célèbre, puisque c'est le tien, Pierre.
Alors, le traumatisme crânien, c'était celui de Battiston, c'est ça ?
Celui de Battiston, hein, qui avait reçu...
Schumacher.
Ouais. Le gardien de but allemand.
Le gardien de but allemand, Schumacher, en plein visage, et qui l'avait conduit dans le coma. Donc oui, il s'agissait donc de la demi-finale de la Coupe du Monde en 1982 à Séville, entre la France et à l'époque la RFA. Et moi, j'avais 9 ans devant mon poste de télévision. Et donc, j'ai vécu ce match de manière très, très intense. C'était la première fois que je voyais c'était la première fois que je voyais une Coupe du Monde, en fait. Donc, j'étais complètement émerveillé, bien sûr, supporter de l'équipe de France. Et j'ai suivi ce match qui avait une dramaturgie totalement épique, où on a cru que la France allait se qualifier alors qu'elle n'était pas du tout favorite. Et puis finalement, au dernier moment, après des pénalties aussi mythiques, la France a été éliminée. Et puis donc après cet événement donc quasi tragique de l'agression de Schumacher sur Battiston, donc qui avait été vécu pour moi comme une immense injustice en fait. La France pour moi méritait de gagner et avait injustement perdu. Donc voilà une petite expérience dans ma jeunesse d'une injustice et que je n'ai pas oublié en fait. Et quelques années plus tard, enfin beaucoup d'années plus tard d'ailleurs, 25 ans. Je pensais toujours à ce match et en discutant avec des amis, je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'avait oublié ce match. Les gens de ma génération et puis la génération au-dessus se souviennent très bien de cette partie. Alors ici, on est à Marseille, je suppose que aussi il doit y avoir des gens qui s'en souviennent.
Il y a Amoros qui habite dans cette région. Il y a Michel Hidalgo qui était le sélectionneur, le sélectionneur même de l'équipe et qui sont marseillais, enfin en tout cas qui habitent Marseille.
Et qui j'espère seront présents lors de ce spectacle.
Aussi,
donc l'idée de ce spectacle, c'est d'évoquer ce match de football qui est l'apparition pour un enfant de la déception et donc de se plonger dans cet univers sportif et télévisuel qui se déroule pour moi dans l'enfance. Et donc c'est une manière pour moi de parler du souvenir de l'enfance, du souvenir des émotions de l'enfance et donc de parler... de l'enfance et du passage à l'âge adulte, en fait. Donc, Je me suis replongé dans ce match que j'ai revu donc 25 années plus tard avec tout autant de passion. Et j'en ai créé avec mon ami Aurélien Bory une pièce de danse.
Alors quand vous êtes quatre sur scène, hein, c'est ça, quand vous êtes allé voir les trois autres danseurs et que vous leur avez dit on va faire une pièce sur France RFA 1982, ils vous ont regardé comment ? Comme un fou !
Oui, ils n'ont pas trop osé me contredire, mais ils devaient être étonnés en effet. Donc j'ai fait passer une audition en fait à des danseurs. Et ça a été assez compliqué de trouver les danseurs qui m'intéressaient, car je cherchais des gens avec une énergie qui pouvait dépasser le cadre des codes de la danse, si bien que j'ai fait appel à quelqu'un qui vient plutôt du cirque. J'ai fait appel aussi à une danseuse qui a une énergie très, je dirais, entre guillemets, masculine. Et j'ai fait appel à quelqu'un qui n'était pas danseur, mais que j'ai rencontré sur un terrain de football, un ami qui est footballeur et à qui j'ai proposé de manière un peu incongrue comme ça de participer à ce spectacle. Il a accepté. Et lui, il connaissait bien, comme moi, il connaissait bien les gestes du football. Donc je me suis appuyé sur lui pour travailler corporellement.
Apolline ?
Oui, alors je voulais dire, puisque moi je suis la seule autour de cette table à avoir vu le travail de Pierre, le spectacle de Pierre, c'est que ce ne sont pas des danseurs qui jouent au football, qui racontent une histoire du football qu'ils auraient. Enfin, je sais pas comment.
C'est pas une transcription.
C'est pas une transcription du match, et en même temps. Toute l'évocation du football, avec ses codes, avec ses travers, avec ses outrances, est dans ce spectacle. Et c'est ça que j'ai trouvé très très étonnant. Et je pensais que, effectivement, parmi les trois danseurs, aucun n'était. Il y avait un circassien, il y avait donc effectivement un joueur de foot, mais enfin qui est aussi libraire,
amateur, qui est libraire.
Voilà, c'est surtout ça. Et puis le fait de faire appel aussi à une femme, même si au niveau de l'énergie, elle a une énergie puissante, etc. Elle est quand même très féminine. Et puis, c'est pas dans sa pratique, ni dans son corps, ni dans son quotidien. Le foot n'est pas quelque chose de, je dirais, d'enraciné, d'ancré. Donc, voilà, il y a aussi cela, c'est-à-dire, pas le contre-emploi, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de ne pas caricaturer et de ne pas faire ces césures entre le sport, la danse, des projets qui pourtant font appel à une technique ou qui font appel à une... Donc Daniel n'avait pas des nageurs.
Pierre
n'a pas fait appel à des footballeurs. Michel a fait des pièces aussi qui ont... Michel, dis aussi ton expérience et pour autant...
Juste une question à Pierre quand même. C'est vrai que le spectacle de Pierre a une particularité, c'est qu'il reprend quand même la dramaturgie de cet événement sportif. Il y a la pression tout au long de cette pièce, parce que je l'ai également regardée. Cette pièce, elle est pesante comme l'a été cette rencontre. Et là, pour une fois, ça arrive déjà dans le cinéma assez régulièrement, mais pour une fois, un créateur là s'appuie sur l'élément dramaturgique que peut amener un match de foot ou un événement sportif. Et ça, c'est vraiment nouveau.
Alors, comme le dit Apolline, il ne s'agit pas d'une reconstitution de ce match, mais il est question d'une évocation très forte, en tout cas au début de la pièce, une évocation très forte de cet événement assez rapidement dans la pièce apparaît cette notion de déception et d'injustice. Et on est quand même dans une idée, en effet, un peu angoissante, un peu nostalgique, de regarder le passé avec quelque chose de, comme, avec une frustration. Donc, voilà. Donc, il ne s'agit pas d'une reconstitution, mais les codes, en effet. Footballistique filtré par le code de la télévision, ça c'est important parce que l'objet télévisuel, puisque c'est à travers la télévision qu'on a vu ce match pour la plupart, donc l'objet télévisuel transforme aussi l'événement et transforme le mouvement et les corps. Donc dans cette pièce, on fait appel très fortement à ce filtre.
Éric Dimeco, est-ce que ça vous étonne que 25 ans après, il y ait un chorégraphe comme ça qui puisse avoir envie de créer une pièce de danse sur un match de foot ?
Non, c'est vrai que ça fait partie des grands traumatismes
vous aussi
du sport. Oui, j'avais 19 ans à l'époque, puisque J'étais jeune professionnel et oui, ça fait partie des grands traumatismes du football français qui ont peut-être servi après pour la suite aux générations qui sont arrivées derrière. Mais ça ne m'étonne pas du tout qu'on puisse faire un spectacle sur une compétition quelle soit, que ce soit le football ou autre chose. C'est vrai qu'un match de foot, c'est une tranche de vie. Il y a un début, une fin, ça peut être un film. Il y a des moments de joie, de peine. Ce match-là, justement, bon, il y a tout eu dans ce match-là. Et pour un enfant de 9 ans, je comprends très bien que ça peut être un traumatisme, comme ça l'a été pour la plupart des Français à ce moment-là.
Justement, vous évoquez la dramaturgie du sport, ça fonctionne vraiment très très bien. Il y a des scénarios géniaux qui sont créés par les événements sportifs. Il y a une petite jalousie, Michel, parfois, de voir un tel spectacle aussi bien rodé, aussi bien, qui fonctionne aussi bien comme un match de foot réussi.
Je dirais, par exemple, au moment où Zidane est devenu la grande star qu'on sait, j'ai observé, sans m'intéresser du tout au football a priori, je me suis dit, mais qu'est-ce qui rend possible cette chose? Et ce que j'ai remarqué, puisque je l'ai regardé avec mes yeux de chorégraphe, c'est que la plupart des footballeurs ont tendance à lancer leurs jambes un petit peu en dehors de leur axe, donc à l'éloigner du bassin, alors que lui, pour accélérer sa jambe, il retire son bassin. Voilà.
Enfin, la clé
voilà, c'est comme ça que j'ai observé le tir de Zidane. Donc, on porte aussi un regard sur les choses, sur le monde qui entoure, même si effectivement, je n'ai pas de culture de sport collectif, je ne suis pas particulièrement versé vers le football, mais je l'ai observé comme ça. Et je profite quand même d'avoir la parole pour dire que le spectacle de Pierre, celui qui arrive là, le 27, je crois, juin, c'est le premier auquel je me suis inscrit, parce que le spectacle de Pierre l'an dernier, Érection, était ma pépite pendant le festival. C'est-à-dire qu'il y a un engagement tel, un aspect tellement incisif dans le propos que ça a été le premier que j'ai coché. Et c'est au ballet, c'est dans la salle du ballet, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. Venez vite. Voilà.
Sur Zidane, Sylvie Bateau, pardon. Vous vouliez dire quelque chose?
Non, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont Michel décrivait ce qu'il avait vu. C'est qu'un danseur, quand il regarde un sport, il va le lire par rapport à la motricité, entre autres, comment s'organise le mouvement, etc. Et quand des sportifs, nos étudiants, vont voir les spectacles de danse, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent la performance. Donc il s'agit à un moment donné de faire basculer l'œil de sportif, enfin, de regarder, entre autres, la performance, pourquoi pas, et aussi de les faire basculer vers qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on identifie de ce qu'on a vu en cours et qui est lié à la danse.
Est-ce que vous êtes allé voir ce fameux film sur Zidane l'année dernière qui avait été sélectionné au Festival de Cannes, réalisé par deux artistes, Philippe Parrindo et Douglas Gordon?
Désolé.
Non,
moi. Moi, je suis allé le voir.
Et alors?
Je l'ai trouvé très beau, un peu ennuyeux au bout d'un moment parce qu'il y a quand même certaines longueurs, parce que c'est assez intéressant de voir un joueur de foot pendant un seul joueur de foot pendant un match, c'est qu'en fait il touche très rarement le ballon, donc c'est mais vraiment très rarement, même si on s'appelle Zidane. Donc ça c'était assez intéressant, et puis il y a une intimité qui est avec le joueur qui était notamment avec le son qu'il produit, qui était assez intéressante dans ce film. Mais pour rebondir sur ce qu'il se disait, une œuvre d'art, elle doit détourner les évidences des apparences. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire dans ce spectacle. Bien sûr, on parle d'un match de football, mais ensuite on détourne un petit peu les évidences, hein, justement. Pour s'évader vers autre chose. Et donc un événement qui pourrait paraître anecdotique, ça n'est qu'un match de football, finalement permet de dériver vers des sentiments plus profonds, plus intimes, et souvent d'ailleurs plus tristes et plus angoissants. Et puis aussi par rapport, je reviens au football, il y a aussi un regard qui est de quelqu'un qui adore le football, mais qui aussi a une certaine distance, parce qu'il voit quand même les travers que peut générer justement l'efficacité terrible de ce spectacle qu'est le football, avec des excès qu'on peut voir tous les jours dans le football, l'excès de la passion des supporters ou l'excès de l'argent. Enfin, il y a des excès dans cette sociologie du football qui est un spectacle merveilleux, mais qui en même temps détourne l'attention de certains problèmes vers d'autres peut-être plus futiles. Donc il faut aimer ce sport tout en ayant un regard aussi critique.
C'est pas le même rapport au public, ouais, le football et la danse contemporaine. Alors on arrive au terme de cette émission. Apolline Quintran, juste deux mots pour terminer. Que c'est une 12e édition qui est traversée par des événements qui ont 20 ans. On parlait du match de Pierre Rigal à Arrêt de jeu, on parle de Waterproof de Daniel Larieux, la compagnie Kéliménis Plaisir d'offrir à 20 ans aussi, Musique à 13 à 20 ans.
Oui, donc ce sont leurs 20 ans, donc je n'y suis pas pour grand-chose. En tout cas, j'ai été effectivement attentive au fait que ces compagnies ou ces artistes avaient des choses à dire par rapport aux 20 ans. Mais surtout, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le retour sur le passé, c'est ce qu'on fait de ces 20 ans. C'est pour cela que les termes que j'avais utilisés cette année, c'est comment se réinventer en permanence. Et en fait, parler des 20 ans, parler des anniversaires, c'était aussi une magnifique occasion de donner la parole aux artistes et de leur dire comment, perpétuellement, anniversaire ou non, ils se réinventaient. Ils avaient encore des choses à dire. Alors c'est beaucoup plus touchant, effectivement, dans le cadre d'anniversaire, parce que là, on touche, dans le cadre d'une compagnie ou d'un artiste, à quelque chose de très intime, à un parcours personnel et qui a été émaillé de choses que l'œuvre ne dit pas toute seule. Donc ça voulait dire, voilà, faire émerger tout cela, mais en même temps, dans quelque chose de très rien de nostalgique, rien d'une profondeur, oui, certainement, mais rien de nostalgique, tout au contraire, et c'est ça qui est beau, je pense, dans cette édition, c'est complètement tourné vers le futur, vers un devenir. Donc c'est dans ce sens-là que ces anniversaires ont été importants, ont tissé un peu une trame sur cette édition. Ouais.
Ben, merci beaucoup à vous tous d'avoir été nos invités ce soir pour cette émission spéciale à l'occasion de l'ouverture de la 12e édition du Festival de Marseille au Cercle des Nageurs Marseillais. Le spectacle Waterproof de Daniel Larieux va démarrer d'ici 30 minutes. Je rappelle donc que nous étions en compagnie d'Apolline Quintran, directrice du Festival de Marseille, Paul Leccia, président du Cercle des Nageurs, Roger Cadieu, apnéiste, Eric Dimeco, délégué à l'animation de la jeunesse dans les quartiers, mais aussi ancien footballeur, Pierre Rigal et Michel Kéliménis, chorégraphes, Laurence Mouchnino et Sylvie Bateau, professeurs de sport à la faculté de Lumini, Frédéric Audon, capitaine de l'équipe de waterpolo du Cercle des Nageurs Marseillais, Daniel Larieux était avec nous également, chorégraphe de Waterproof au début de cette émission. Merci à Gilles Roff de Marseille Hebdo.
Merci.
De cette co-animation. Bonne soirée à tous. À suivre un mix de DJ Oil, Soul Vibration, suivi de j'arriverai pas avec le vent, de Power Station de Selecta Ismo sur les 3-8. Salut.